journal. Frédéric Barrère, bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. On vient de perdre la moitié de la couronne. L'émotion des Britanniques après la mort hier du prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth II. Le Royaume-Uni en deuil rend hommage aujourd'hui au duc d'Édimbourg. Nous serons à Londres dans un instant. Jean Castex repart à l'offensive sur la vaccination avec AstraZeneca. Le Premier ministre visitait ce matin le vaccinodrome de Lyon. Il veut convaincre les Français d'accepter à nouveau le vaccin. Les enseignants attendent un calendrier clair sur la vaccination. Les professeurs souhaite être vacciné rapidement. Invitée de ce journal, Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES FSU. Dans ce journal également, des experts européens à Moscou pour examiner l'efficacité du vaccin Sputnik V et la prescription culture du week-end avec le festival de théâtre Parole citoyenne. La météo et un après-midi pluvieux. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. À 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
Faut-il s'inquiéter de CRISPR ? Cette nouvelle technologie permet de modifier l'ADN de plantes ou d'humains, mais nous verrons que si elle suscite de grands espoirs pour guérir des maladies, elle attire aussi les apprentis sorciers.
Jacques Monin, secret d'info à 13h20.
France Inter.
Le Royaume-Uni en deuil rend hommage en ce moment au prince Philippe, le mari de la reine Elisabeth II, mort hier à l'âge de 99 ans. Émotion et recueillement après la disparition d'une personnalité familière pour des générations de Britanniques et de la quinzaine de pays dont la reine est chef d'État. Aujourd'hui à Londres, Belfast, Édimbourg, Gibraltar et depuis les navires de la Royal Navy en mer, des salves de coups de canon seront tirées pour saluer la mémoire de celui qui était devenu le patriarche de la famille royale britannique. Sur place à Londres, notre correspondante Laura Calmus, que nous avons joint il y a quelques minutes, une journée entre émotion et hommage dans tout le royaume.
Oui, l'hommage est unanime pour les Britanniques, avec un deuil national jusqu'au jour de l'enterrement du prince Philippe et les drapeaux de toutes les institutions publiques en berne. Le tir des 41 coups de canon vient tout juste de commencer. Un coup de canon par minute, un peu partout dans le pays. Un chiffre bien précis, les 21 premiers coups de canon sont tirés pour un chef d'État, puis les 20 autres lorsqu'ils sont tirés dans un endroit symbolique, dans un parc royal ou à la Tour de Londres. 41 coups de canon avaient également été tiré pour le mariage du duc d'Édimbourg avec la reine Elisabeth il y a 73 ans ou le couronnement de la reine en 1953.
Et puis les Britanniques perdent véritablement un membre de leur famille, quelqu'un qu'ils connaissent depuis 74 ans.
Oui, il est extrêmement respecté ici. Les Britanniques se souviennent de son dévouement pour la monarchie. Depuis l'accession au trône de la reine Elisabeth, il l'a accompagnée à plus de 22 000 événements officiels, toujours quelques pas derrière et toujours avec la même loyauté. Alors de nombreux Britanniques, malgré la pandémie, n'ont pas hésité à lui rendre hommage devant les grilles de Buckingham Palace ou au château de Windsor, avec un bouquet de fleurs en main, parfois les larmes aux yeux, tous unis. Les Britanniques n'oublieront pas non plus son franc-parler, ses gaffes et sa spontanéité. La reine Elisabeth est un chef d'État, le prince Philippe était un chef de famille pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que pour toute la nation.
Laura Calmus à Londres, le prince Philippe, Laura Calmus en parlait, donc une personnalité, un visage tellement familier des Britanniques, avait épousé en 1947 celle qui allait devenir la reine Elisabeth II. 74 ans de mariage pour ce couple inséparable et un prince consort qui a dû se fondre dans un paysage parfois compliqué. Correspondance à Londres, Richard Place.
Comme écrasé par la nouvelle, il est assis, caché sous son journal. Ce 6 février 1952, Elisabeth devient reine d'Angleterre et Philippe sait qu'il ne sera désormais pas autre chose que son mari. À 30 ans, il va devoir abandonner son nom de famille, sa carrière, sa nationalité, sa religion, ce qui paraît alors contre nature selon Johnny Diamond, le chroniqueur royal de la BBC.
C'était un leader naturel, remarqué pour ses valeurs et sa bravoure pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un officier prometteur, il semblait destiné aux plus hautes responsabilités de la Navy. Alors oui, il s'est sacrifié à un point, je pense, que nous ne pouvons pas imaginer.
Il multiplie les cérémonies et les engagements officiels, son franc-parler le rattrape régulièrement. Sa reine ne lui en tient pas rigueur et lui offre même une déclaration publique pour leurs 50 ans de mariage.
Il a tout simplement été ma force et mon soutien pendant toutes ces années. Et moi, ainsi que toute sa famille, et ce pays, et bien d'autres, avouent envers lui une dette plus grande que ce qu'il pourra jamais réclamer ou que nous ne pourrions imaginer.
Ces dernières années, le prince Philippe les a essentiellement vécues dans le palais de Sandringham où Elisabeth II le rejoignait rarement. Mais il ne se passait pas une journée sans qu'il ne se téléphone. Londres, Richard Place, France Inter.
En France, le gouvernement le répète, mobilisation générale en faveur de la vaccination. Et ces derniers jours, plusieurs vaccinodromes ont ouvert, notamment au Stade de France, à Nice, en Normandie, et également hier à Perpignan, au Palais des Expositions. Le vaccin utilisé à Perpignan est celui de Pfizer-BioNTech. Et dans ce centre de vaccination, médecins, infirmiers, sapeurs-pompiers et bénévoles se chargent de tout. Reportage Xavier Ponroy, France Bleu Roussillon.
Des tentes, des chaises et des bureaux sont installés un peu partout. La salle n'est pas pleine, mais on a l'impression de voir comme une fourmilière. Chacun joue sa partition. Plusieurs médecins comme Corinne Garcia auscultent les futurs vaccinés.
J'établis un tri médical en fonction de l'éligibilité. Les critères, c'est la fièvre, un PCR positif, un traitement lourd au niveau des anticoagulants et des risques infectieux précédents.
Dans un coin, un pharmacien et quatre préparatrices remplissent les flacons avec le précieux sérum, puis les seringues sont remises à ce que l'on appelle les piqueurs. Brigitte Wadi est infirmière et elle doit parfois apaiser certains patients.
On a toujours le petit mot qui permet de rassurer, déjà parce qu'ils ont beaucoup de chance d'être vaccinés. Nous avons la chance de travailler avec du Pfizer, donc tout le monde est preneur et les gens sont ravis de pouvoir avoir leur dose qui leur permettra peut-être de vivre normalement.
Ce centre de vaccination n'est pas le seul des Pyrénées-Orientales, mais c'est de loin le plus grand. Armand habite à Perpignan, il préférait se faire vacciner près de chez lui et semble ravi du fonctionnement.
J'avais rendez-vous à midi et quart et midi et quart je suis vacciné. Alors ça a été d'une rapidité, j'en reviens pas.
Ce week-end, 800 doses par jour seront injectées, 1200 la semaine prochaine et courant mai, l'objectif est de monter à 2000 piqûres quotidiennes.
500 000 vaccinations hier, un record et l'objectif du gouvernement, on le rappelle, est de vacciner 20 millions de personnes mi-mai, 30 millions mi-juin et tous les Français qui le souhaitent d'ici la fin de l'été. Et justement, à l'école, les enseignants attendent d'être vaccinés. Le calendrier de l'éducation nationale concernant la vaccination des professeurs doit encore être précisé. Invitée de ce journal, Sophie Vénétité, professeure de sciences économiques et sociales et secrétaire générale adjointe du SNES-FSU. Bonjour Sophie Vénétité.
Bonjour.
Alors la vaccination des profs promise pour la mi-avril par le ministre Jean-Michel Blanquer semble peu probable ou incertaine. Que vous dit le ministère de l'Éducation nationale sur l'ouverture de la campagne de vaccination aux enseignants ?
Alors, le ministère de l'Éducation nationale ne nous dit pas grand-chose, voire même rien du tout, puisqu'on pose ces questions d'un calendrier de la vaccination et des modalités concrètes depuis le mois de janvier. Et depuis le mois de janvier, nous n'avons eu aucune réponse. En fait, nous avons appris à chaque fois les rebondissements sur le calendrier de la vaccination dans les médias, mais personne n'est en mesure de nous donner des explications concrètes sur la façon dont va se faire la vaccination des enseignants. Et aujourd'hui, il y a vraiment ce sentiment à la fois d'une cacophonie la plus totale, parce qu'on a entendu beaucoup de dates depuis des mois, mais aussi une forme d'abandon parce que on nous avait promis le mois de mars, on nous avait promis le mois d'avril et maintenant on nous parle du mois de juin et on se demande bien où est la priorité à l'éducation nationale dans tout ça.
Vous voulez être prioritaire dans cette campagne de vaccination, c'est la demande des profs ?
Oui, c'est une demande. Il nous semble tout à fait normal que les personnes âgées et les soignants soient vaccinés le plus rapidement possible. Mais ensuite, il y a aussi des choix politiques à faire. Quels moyens on se donne pour que l'éducation nationale fonctionne, pour qu'elle fonctionne jusqu'à la fin de l'année. Et ça suppose notamment la vaccination des enseignants le plus rapidement possible. Donc nous, on souhaite que cette vaccination, elle commence dans les prochains jours, en tout état de cause, avant la réouverture des établissements scolaires pour les collèges et les lycées, avant le 3 mai.
Alors il y a, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus de presque 870 000 professeurs dans les écoles, les collèges et les lycées en France. Les personnels qui prennent en charge les enfants en situation de handicap et également les professeurs et les enseignants maternels seront eux vaccinés, ça c'est confirmé ?
Alors là aussi on a du mal à y voir clair puisqu'on a entendu le chiffre de 80 000 personnes qui sont concernées par ces situations particulières qui pourraient être vaccinées. Hier Emmanuel Macron a annoncé un chiffre de 70 000 personnes, donc là aussi on a du mal à y voir clair. Ce qui est certain c'est qu'il y a effectivement des professions qui sont directement exposées et même au-delà du métier d'enseignant il faut bien voir qu'il y a aussi par exemple les surveillants dans les collèges et les lycées qui sont par exemple dans les cantines au moment où les élèves ne portent pas de masque. Donc ça montre bien que le sujet vaccination est en fait un sujet global dans l'éducation nationale. Et aujourd'hui, vraiment, on regrette que ce sujet n'ait jamais été traité globalement. En fait, on n'a jamais pu avoir une réunion où on met toutes les hypothèses sur la table, où on met toutes les situations sur la table pour voir exactement comment ça peut se passer concrètement.
Ce sont donc les vacances scolaires pour 15 jours et pour tout le monde, vous le disiez Sophie Vénétité. Durant cette période, qu'est-ce qu'il faut faire en plus de la vaccination si elle peut démarrer? Comment mettre à profit cette période pour améliorer le protocole sanitaire dans les établissements scolaires? Je crois que vous voulez des détecteurs de CO2.
Oui, il y a deux éléments très importants à travailler là sur les 15 jours qui viennent. C'est d'abord préparer la reprise en distanciel le 26 avril, puisque dans les collèges et les lycées, on a encore une reprise en école à distance le 26 avril. Donc ça serait quand même une bonne chose qu'on ne revive pas la semaine extrêmement chaotique qu'on vient de vivre avec les outils numériques. Donc comment est-ce qu'on se donne les moyens pour que les environnements numériques de travail et ma classe à la maison ne subissent pas un nouveau crash pendant quelques jours? Et ensuite, il faut préparer le retour en présentiel à partir du 3 mai. Ça veut dire très concrètement effectivement des détecteurs de CO2. Ça veut dire aussi réfléchir à la façon dont on limite le brassage, donc certainement des jauges pour accueillir un peu moins d'élèves en collège et en lycée, peut-être des demi-groupes. Il faut aussi réfléchir à une politique de test sur plusieurs semaines pour vérifier que le virus ne circule pas plus activement dans les collèges et les lycées au retour des élèves du 3 mai.
À partir du 3 mai. Alors après le 3 mai, Sophie Vénétité, il y a le baccalauréat en juin. Est-ce que le grand oral et l'épreuve de philosophie pourront se tenir, selon vous, après plus d'un an de scolarité totalement bousculée par l'épidémie du coronavirus ?
Aujourd'hui, ça nous paraît extrêmement compliqué que le grand oral puisse se tenir normalement. Il faut se rappeler que c'était une épreuve qu'on était censé préparer avec les élèves sur 2 ans. L'année de première est terminale. Aujourd'hui, on voit bien que ces 2 années n'ont pas été normales. Cette épreuve est très particulière, elle est nouvelle. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que les élèves et les professeurs sont prêts. Pour nous, il y a urgence à neutraliser cette épreuve-là. Elle ne doit pas se tenir cette année.
Il faut la supprimer. Il faut que le ministre la supprime cette année.
Tout à fait. Pour cette année, il faut que le grand oral soit supprimer. Ça paraît vraiment extrêmement compliqué que les élèves puissent le passer dans de bonnes conditions, mais surtout ils ne sont pas vraiment prêts à faire face à une épreuve qui est très particulière et qui nécessite beaucoup de préparation que nous n'avons pas pu mettre en œuvre, tout simplement parce que ces 2 dernières années ont été chamboulées par le Covid.
Sophie Vénétité, merci beaucoup, professeure de sciences économiques et sociales et secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, merci à vous. Concernant le vaccin russe Sputnik V, une délégation d'experts de l'Agence européenne du médicament est à Moscou aujourd'hui pour examiner sur place les données essentielles concernant ce vaccin. Pour le Kremlin, c'est une visite importante qui a fait de son vaccin vedette un élément essentiel de sa stratégie d'influence sur la scène internationale. Pourtant, en Russie, moins de 10% des Russes ont été vaccinés avec Sputnik, et cela après une campagne de plus de 4 mois. Sur place à Moscou, Claude Brouillot.
Quand la vaccination de masse avec Sputnik V a été décrétée il y a 4 mois par Vladimir Poutine en personne, elle a reposé d'abord sur une communication très timide pour la bonne et simple raison que les autorités russes ont craint dans un premier temps un afflux de candidats à la vaccination qu'elles auraient été bien incapables de satisfaire faute de production suffisante. Aujourd'hui, il est question d'un stock de 10 millions de doses, c'est bien peu ramené à la double piqûre par individu de plus de 18 ans autorisé à se faire vacciner en Russie. Et à l'exception du port du masque, dans les transports et les magasins, les salles de spectacle, la vie normale et la baisse officielle du nombre de contaminés n'invitent guère les Russes à se faire vacciner. Enfin, en choisissant à l'automne 2020 de ne pas reconfiner la population russe, le Kremlin avait 2 objectifs, éviter un marasme économique plus profond et laisser circuler le virus afin d'accroître le niveau d'immunité dans le pays, une stratégie qui a eu tout de même un coût très lourd, avec une mortalité difficilement reconnue quelques mois plus tard de 200 000 morts de plus par rapport à ce qui avait été déclaré précédemment. Moscou, Claude Brouillot, France Inter.
Jean Castex, après avoir visité ce matin à Lyon l'hôpital Édouard Herriot et le centre de vaccination Gerland, doit se rendre cet après-midi en Ardèche. Le Premier ministre vient constater les dégâts considérables du gel sur les vergers. La météo de ces derniers jours a été un cauchemar, notamment pour les viticulteurs et les arboriculteurs, et il pourrait encore faire froid dans les jours qui viennent avec des températures négatives. Dans les vergers des Pays de Savoie, c'est l'heure du bilan après le coup de gel avant-hier jeudi, autour des -6 degrés et des conséquences parfois dramatiques pour les arbres. arboriculteurs. Il faudra encore attendre quelques jours pour savoir ce qui pourra ou non être sauvé. Mais c'est déjà une certitude. Cette année, la récolte de pommes et de poires sera beaucoup moins bonne. Reportage à Coponex, en Haute-Savoie. Richard Vivion, France Bleu Pays de Savoie.
Dans le verger de Mathieu Tissot, l'impact du gel est visible à l'œil nu.
Là, on peut se rendre compte que déjà les pétales ont brûlé un petit peu, brûlés par le gel.
Et le mal est profond jusqu'au cœur des fleurs, des pommiers et des poiriers.
Donc c'est vrai qu'après donc moins 7 degrés, pour voir si les fruits sont gelés, on coupe la fleur en deux. Voilà, là on se rend compte que la fleur là, elle a gelé parce qu'elle est toute noire à l'intérieur. Voilà. Et si on en coupe plusieurs, peut-être qu'on va en trouver des bonnes.
Alors avec ce coup de gel, Mathieu Tissot sait qu'il a perdu une bonne partie de sa future récolte.
Oui, en tonnes, on a à peu près 1600 tonnes de pommes. Il y en aura un peu moins cette année.
La procédure de calamité agricole déclenchée par le gouvernement, c'est une aide, oui, mais pas l'essentiel, selon l'arboriculteur.
Moi, ce que je veux, c'est servir mes clients. Je préférerais que d'avoir pas d'aide et pouvoir avoir mon vrai tonnage. Quoi. Voilà. Simplement, les aides, s'il y a des aides, c'est juste pour faire vivre mon exploitation et vivre mes collaborateurs, c'est ça le principal.
Et Mathieu Tissot estime devoir attendre encore une quinzaine de jours pour faire le vrai bilan de ce coup de gel.
Une fête clandestine interrompue par la police cette nuit à Paris. 110 personnes participaient à cette soirée dans un restaurant du 19e arrondissement. Les policiers ont verbalisé les convives, interpellé l'organisateur. Une enquête a été ouverte. Une autre fête clandestine également a été interrompue par la police à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. 30 personnes ont été verbalisées. L'organisateur de la soirée a également été interpellé. La période post-pandémie. Le gouvernement expliquait jeudi se donner 5 ans pour rétablir les finances publiques, mais cela passera par des efforts importants. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a indiqué qu'il faudrait mener des réformes structurelles comme la réforme des retraites, pour l'instant en suspens. L'association ATTAC n'a pas du tout la même analyse. Elle a mené ce matin une action dans le métro parisien et sur les quais de la station Bercy. Une quarantaine d'activistes a recouvert les grandes affiches de panneaux publicitaires avec une question: qui doit payer la crise? Reportage Delphine Evenou.
En une dizaine de minutes, les publicités sont recouvertes par des portraits noirs et blancs. Une aide-soignante, un chômeur, une étudiante face à un grand patron du CAC 40, Pascal Militant.
C'est la station de Bercy, donc en face du ministère des Finances, pour les alerter sur le fait qu'il serait peut-être temps de choisir les bonnes cibles.
Et il n'y a pas à chercher bien loin, selon Aurélie Trouvé, la porte-parole d'ATTAC.
43 milliardaires français ont engrangé des surprofits de 175 milliards d'euros de mars à décembre 2020 pendant la crise. Il y a également des multinationales qui ont énormément augmenté leurs profits, à l'image d'Amazon, de Netflix ou encore de Sanofi, tout en versant des dividendes monstrueux à leurs actionnaires. Et pendant ce temps-là, nous avons un pays et des hôpitaux publics qui souffrent.
Sur le quai de la station de métro, deux écharpes tricolores, députés France Insoumise et communistes comme Elsa Faucillon, élue dans les Hauts-de-Seine, venue donner des solutions.
Il y a une proposition d'abord d'une taxe sur les super-profits engrangés pendant la crise et une deuxième qui est un prélèvement à la source des multinationales pour éviter l'évasion et l'optimisation fiscale.
La campagne d'affichage d'ATTAC va se poursuivre dans les prochains jours.
Delphine Evenou, la prescription culture pour ce week-end avec un festival de théâtre en direct, retransmis sur Facebook. L'édition 2021 du festival Parole citoyenne débute ce soir et jusqu'au 28 avril avec à l'affiche Andrea Bescon, Jacques Weber, Lambert Wilson ou Julie Gayet. C'est un festival engagé autour de thématiques fortes. On y parlera de la place des femmes dans la société, d'Edward Snowden ou encore de la Commune de Paris. Stéphane Capron.
Il était impensable pour le producteur Jean-Marc Dumonté de renoncer à son festival. Toutes ses salles de spectacle sont fermées, mais il a souhaité conserver ce lien avec le public.
C'est vraiment un acte politique pour montrer que le théâtre est toujours vivant, pour montrer qu'il y a des compagnies qui créent, qu'il y a des artistes qui continuent à faire leur métier. On arrive à trouver d'autres publics, à diffuser différemment. Et c'est vraiment symboliquement très fort que ce 4e festival Parole citoyenne ait lieu, parce que notre secteur trépigne de redémarrer. C'est une façon pour les artistes, pour les auteurs de continuer à travailler. Donc c'est important de montrer qu'on est vivant, plus que jamais vivant, même si on est à l'arrêt.
Les thématiques choisies pour cette édition sont très fortes, du récit de la vie de Simone Veil au discours d'Albert Camus lorsqu'il reçoit son prix Nobel de littérature en 1957, jusqu'aux paroles de femmes récoltées par la journaliste Annick Cogent dans son livre « Je ne serais pas arrivé là si », comme celle d'Amélie Nothomb, portée sur scène par Julie Gayet.
« Si je n'avais pas été insomniaque de naissance,
C'est la conclusion à laquelle je suis parvenue après avoir beaucoup réfléchi à ce début de phrase absolument fascinant.
Toutes les représentations seront suivies par des rencontres avec les artistes via Facebook.
Le festival Parole citoyenne jusqu'au 28 avril sur Facebook, prix des places 9 euros.